à toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir sur BFM Alsace avec l'actu du Racing Club de Strasbourg. Le Racing battu à Nice ce week-end 2-0. Et plus que la défaite, c'est le contenu qui a inquiété les supporters et même les observateurs de ce match, tant les Alsaciens ont été tristes dans le jeu. Après, avant 15 jours de trêve, c'est l'heure d'un premier point sur ce début de saison. Le classement, les recrues, le bilan du mercato qui s'est terminé juste avant ce week-end. Le premier de l'ère Bouco, on va en parler. Il y a au moins des choses à dire avec le Racing. Toujours, on accueille autour de cette table Anthony Levengut. Salut Anthony.
Salut Mathieu.
De retour titulaire cette saison.
C'est la rentrée.
Et en face de toi, on l'a arraché à Wolverhampton dans les dernières heures du mercato. Maxime Ducap est avec nous. Salut Maxime.
Salut Mathieu, bonsoir à tous.
Allez, au sommaire de cette première partie de Cop Racing, il faut que je prenne mes notes, sinon c'est la rentrée, sinon on va se tromper. On va parler du fantôme de la Riviera, le Racing, comme à Monaco, absent sur le terrain de Nice. On parlera des deux chantiers en attaque et en défense des deux côtés du terrain. C'est compliqué. Et puis on fera le bilan de ce mercato qui s'est donc clôturé vendredi soir. Voilà pour le programme de cette émission. Comme à Monaco, il y a 15 jours, le Racing a été transparent sur le terrain pendant 90 minutes. Très, très décevant. En tout cas, je prends la température d'entrée de jeu. Messieurs, un mot pour qualifier ces 90 minutes et un petit peu plus auxquelles vous avez assisté, Anthony.
Moi, c'est trois mots, nul à chier.
C'est clair et net. Ouais. Maxime.
La sieste. À 17h.
C'était un peu tôt. Et dommage, il faisait beau en plus. Plus que le résultat, Anthony, c'est vraiment la manière qui inquiète. 2-0 en soi, perdre à Nice, bon, ça arrive. Mais là, vraiment, le vrai problème de ce début de saison et de ce match, c'est le fond de jeu.
Eh ben, on sait exactement le fond de jeu. En fait, le jeu du Racing, il est très simple. C'est Matt Sells, ça donne à Silla, ça donne à Perrin, ça donne à Niamsi, ça décale, on est pressé, on rejoue sur Sells. On dégage. Il n'y a aucun plan de jeu dans cette équipe, il n'y a aucun fond de jeu, il n'y a aucun plan de relance. Il y a... J'appelle ça le concept Jean-Claude Duss. Sur un malentendu, ça peut passer.
Ça a fonctionné sur certains matchs.
Ça a fonctionné sur certains matchs, mais ça fait quand même 4 matchs qu'on se fait chier. Très concrètement, le match de Lyon, il y a de l'abnégation, on se bat, on arrive, on est réaliste. Le match de Toulouse, ça a sifflé à la mi-temps de la part des supporters. On s'est vraiment fait chier. Il n'y a pas de but, je pense que c'est la bronca. Il y a juste une prise
que siffler à la mi-temps, c'était pas non plus.
Oui, mais il y a quand même une prise de conscience à avoir au niveau de la direction que là, enfin, on a investi 55 millions dans une équipe. Mais on est nul à chier, tout simplement.
On a l'impression que on va détailler ça effectivement, Anthony, pour revenir, Maxime, pardon, sur ce match de Nice. On est revenu sur certains matchs de la saison dernière quand on était vraiment au fond du seau. Je pense à des matchs avec dans l'hiver, quand Mathieu Lescornet a repris l'équipe à Rennes, notamment à Lille, où vraiment, pareil, on était devant une espèce de néant.
Oui, mais c'est terrible parce que dès qu'on voit la composition d'équipe, on sait qu'on va assister à ça. C'est ça qui est terrible, c'est que nous, on n'est pas du milieu, on est juste de simples observateurs et supporters, et on sait très bien qu'on va passer un très mauvais moment et qu'on est chanceux de rentrer seulement avec un 2-0. Lorsque vous avez 80% de possession pour Nice, après 20 minutes de jeu, que vous entendez dans les micros du diffuseur Patrick Vieira dire à ses joueurs « on est bien en place », ah bon ? Ah bah oui, on est peut-être bien en place pour être seulement à 0-0, mais c'est pas un match de Coupe de France, c'est un match de championnat. C'est ça. Et c'est très interrogatif par rapport au fait que on a vu de la qualité sur les matchs de préparation. On a vu du jeu. Et dès que le championnat a débuté, ça s'est liquéfié.
Regardez justement, tiens, la composition de l'équipe avec laquelle Patrick Vieira avait choisi de démarrer ce match du côté de Nice avec une compo une nouvelle fois inédite, très défensive, 5 quasiment derrière avec les deux pistons de Laine Gilbert, 4 milieux et le seul Emega seul en pointe. À défaut d'être séduisant, Anthony, c'était censé être au moins solide et costaud derrière.
Il a mis Sissoko au milieu de terrain pour apporter un peu de densité au milieu. Mais on s'attendait avec Silla, avec Sissoko, avec Niamsi, quand même des joueurs d'expérience, les trois avec Sissoko, d'avoir quand même une base défensive. Et quand on voit le deuxième but, on en parlait avec Maxime juste avant l'émission, ça part, c'est une passe en profondeur, ça part du milieu de terrain, ça part de la ligne médiane. Ils sont trois contre Mofi, et ils arrivent à se faire griller la politesse. Il y a quelque chose qui ne va pas. On aurait dit une équipe d'Esquimaux dans le désert. Pour vous dire, le niveau de cette équipe est affligeant quand même. Et le discours de Marquelas, c'est de dire tout va bien, en vendant Bellegarde, on a besoin de personne. On a vraiment besoin d'un milieu relayeur. Au final, il manque un lien entre l'attaque et la défense.
On va parler effectivement ligne par ligne un petit peu des soucis de cohérence de cette équipe du Racing. Pourtant, si je regarde le classement, moi, ce matin, je me dis, regardez, le Racing est dans la première moitié de classement, ce qui n'était jamais arrivé la saison dernière. Le Racing a 6 points, grâce à ses victoires contre Lyon et contre Toulouse. Maxime, ce classement, il est quoi ? Il est en trompe-l'œil, en fait.
Ah, totalement. totalement. Il a un trompe-l'œil. Le joueur de ce début de championnat, qui est Bellegarde, est sans doute l'arbre qui cachait la forêt. Faut pas se leurrer. Les trois points contre Lyon, c'est Lyon qui perd le match. Toulouse aussi, à mon sens, à la Méno, aurait mérité bien mieux que de perdre. Clairement, si le Racing avait zéro point ce soir, ça serait la même.
On va passer à la deuxième séquence déjà de cette émission. Vous avez commencé à aborder le problème de la défense du Racing. Malgré cette ligne de 5, le Racing a pris le bouillon. Symbole de cette galère, Anthony Abakar Sylla, recrue la plus chère de l'histoire du Racing. 20 millions d'euros en difficulté lors de quasiment tous les matchs. Encore 13 en difficulté hier. On ne va pas lui taper dessus, mais il symbolise vraiment l'échec pour l'instant de ce début de saison dans le jeu.
Ouais, alors moi contre Lyon, il m'avait plu. En fait, ce qui m'avait plu, c'était son sang-froid. Il arrivait à relancer jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire même pressé par le joueur, il avait réveillé encore à faire une bonne relance. Par la suite, Patrick Vieira l'a repris du fait de sa mauvaise relance face à Monaco, et j'ai l'impression qu'il a peut-être... Il joue à contre-nature. Et donc du coup, on l'a bridé dans un style de jeu qui n'est pas le sien. Je pense que c'est plutôt ça. Mais effectivement, c'est un peu le symbole de l'ensemble du recrutement. Qui ne joue pas d'ailleurs, il n'y a que Emega et lui qui jouent, tout le reste, il y a 35 millions sur le banc. La défense a quasiment pas changé à part Sylla, on a toujours Delaine, on a toujours Gilbert, on a toujours Perrin, mais cette équipe n'arrive plus à jouer, à relancer ensemble. En fait, on est statique, on est neutre dans le fond de jeu, tout simplement.
Est-ce que défensivement, est-ce qu'on attend trop aussi de ces nouvelles recrues? C'est des investissements aussi, Maxime. Ce garçon à 20 ans, il n'est pas censé être le patron de la défense non plus.
Oui, mais vous avez des joueurs à 20 ans qui ont la maturité pour et qui ont été recrutés pour moins que 20 millions d'euros. On nous a vendu un joueur de niveau international. On n'y est pas du tout sur ce qu'on voit. Et pas que sur sa manière de jouer, même dans l'attitude, à la 10e minute, il perd les pédales littéralement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action où il concède un corner. Il y a deux loupés dans l'action quand même.
On va enchaîner avec l'attaque très vite parce que ça tourne déjà très rapidement avec le gros souci du Racing, illustré par un seul chiffre. En fait, regardez cette stat qu'on appelait le chiffre. Tout simplement, comme le nombre de tirs cadrés cette saison par le Racing, 0 tir cadré face à Nice hier après-midi, 6 tirs cadrés en 4 matchs. Le Racing a autant de points que de tirs cadrés, ce qui est une anomalie quelque part. 6 tirs cadrés, c'est le plus mauvais total de Ligue 1. Je crois que les autres clubs devant sont à 10. Il y a des statistiques qui veulent rien dire. Celle-ci, Anthony, elle est parlante.
Bah, et on peut rajouter à cette stat la stat de hier. Il y a 4 tirs, 0 cadré. Et les 4 tirs, c'est 2 Perrin, 2 Gilbert. Bon, quand c'était défenseur qui tire au but, c'est qu'il y a déjà un problème. Il y en a d'autres avant eux pour tirer. Emega est trop esselé devant, en fait, sur le match de... Je prends le match de Lyon. La tactique, c'était de balancer sur lui. Emega a une pointe de vitesse pour qu'il se débrouille face aux défenseurs adverses. Je pense qu'il faut revoir l'ensemble du fond de jeu du Racing. Avant, on avait des joueurs comme Diallo, comme Ajorc, qui jouaient dos au but, qui arrivaient à conserver le ballon. Motiba y arrive à moindre mesure. Et ensuite, qui permettaient au bloc offensif de monter et d'ensuite créer éventuellement un surnom ou des décalages. Là, en balance sur Emega, il n'est pas vraiment très très bon de la tête, même s'il a marqué face à Lyon de la tête. Il se débrouille face au but, mais son seul style, c'est les dribbles et la vitesse. Mais il est trop esselé, ses appels sont mauvais, et les ballons qu'on lui donne, j'y joue attaquant, franchement, c'est démerde-toi avec ce que tu peux, et fais ce que tu peux avec, quoi.
Tu l'as plaint, Max, tu lui en veux ou tu l'as plaint sur ce match, le pauvre Emmanuel est meilleur.
On peut que le plaindre. Il m'a rappelé des moments où Ajorc était dans la même situation avec la vitesse en moins, où Diallo pouvait être seul, esselé, sans ballon aussi, à un moment donné, dans son parcours à Strasbourg. Mais là, c'est la situation est même pire parce que vous n'avez aucun joueur de ballon dans le milieu de terrain. J'ai toujours pas compris le placement de Deminguet en ailier gauche. J'ai compris la logique de Vieira de densifier son milieu de terrain. Mais lorsque vous n'avez pas de joueurs de ballon, comment vous voulez ressortir de votre camp? Et Nice a tout de suite vu qu'il fallait simplement presser pour faire paniquer cette équipe. En plus, la jeunesse fait que... Alors, on peut mettre beaucoup d'arguments sur la jeunesse, mais là, vous n'avez aucun cadre. On en parlera peut-être un peu plus tard. Vous n'avez aucun cadre pour ne serait-ce que donner confiance à ces joueurs. Et au bout de 10 minutes, ils étaient liquéfiés mentalement. C'est ça aussi qui est inquiétant.
On avait un joueur d'animation, de percussion en tout cas, Jean-Knar Bellegarde, parti donc dans les dernières heures du mercato direction la Première Ligue. Habib Diarra a un petit peu ce rôle-là aussi, Anthony, de dynamiteur, un peu d'énergizer au milieu. Il est transparent, perdu depuis le début de saison.
Ah, sur la fin de saison, on avait trois joueurs. On avait Doucouré, Diarra et Bellegarde qui étaient un peu box-to-box. Là, ben, peut-être Diarra a la tête ailleurs, il est un peu frustré de ne pas être transféré. Doucouré fait ses matchs. Voilà, il n'est pas exceptionnel, mais il fait ses matchs. Mais ce que je disais, c'est qu'il manquait un relayeur. Alors, sur les 10 dernières minutes, il y avait Piršić. Nice attaquait un peu moins aussi, mais on a vu quelques relais déjà. On a vu un peu autre chose. Mais Nice attaquait moins, donc on avait le temps de mettre le jeu en place. Mais effectivement, comme le dit très justement Maxime, il n'y a pas de relais dans le milieu. En fait, il n'y a pas de lien entre la défense et l'attaque. La défense, il faut juste les presser. Moi, je regarde les matchs du Racing. Je presse juste un petit peu la défense. C'est panique à bord. Et je sais que je vais récupérer le ballon en 35 mètres. À partir de là, je peux mettre mon attaque en place. Voilà. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire là sur les 15 prochains jours pour mettre un nouveau schéma de jeu et un nouveau plan de jeu pour Patrick Vieira. Parce que tout ce qui a été mis sur Antonetti a été bouffé durant les matchs de préparation où il jouait très bien. Et là, depuis la première journée, en ayant changé peu de bonhomme, il y a trois nouveaux joueurs dans le 11 de départ. Ben, on ne reconnaît pas cette équipe. C'est une équipe de Ligue 2, quoi.
Maxime, en 20 secondes, ça a été très compliqué. Il y a 5 attaquants pourtant quasiment sur la palette. Aucun ne se dégage, il n'y a pas de vraie hiérarchie aussi dans cette attaque.
Bah, soi-disant, les recrues qui ne sont pas sur le terrain ne le sont pas parce qu'elles ne sont pas en forme. On est en septembre. Voilà, on est tous très étonnés. Ce qui domine le plus aujourd'hui, c'est le flou. Et on est tous dans le flou et on sait que cette équipe, le club, le staff, le sont aussi. C'est ça qui est inquiétant.
Eh ben, on va essayer de dissiper un petit peu ce flou et proposer pourquoi pas des pistes, en tout cas pour essayer d'y voir plus clair. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce Cop Racing. À tout de suite. Cop Racing, le retour, la deuxième mi-temps de votre émission. On va parler du bilan du mercato du Racing et puis aussi se poser des questions sur ce premier mois de mise en action du nouveau projet Racing. Le bilan du mercato, tout d'abord le plus gros de l'histoire du Racing avec plus de 50 millions d'euros dépensés. Pour rappel, hein, s'il a 20 millions, j'aurais pu vous faire un petit tableau. Bakwa, Junior Manga, 20 millions les deux. Emmanuel Emega, 12 millions. Plus le prêt du d'Angelo depuis Chelsea. Quelques retours de prêt, Bellarouche, Saï, Senaya notamment. On pensait, Anthony, que le Racing s'était renforcé cet été. Il avait dépensé comme jamais. On était, allez, un petit peu... on avait flambé. On s'est dit, on va passer dans une nouvelle dimension. Le Racing, on est très loin du compte pour l'instant.
C'est ce que Marc Heller a déclaré en disant, on fait venir des investisseurs parce que nous, on n'arrive plus à suivre, que la Ligue 1 demande maintenant un peu d'argent et que si on veut se maintenir entre la 8e et la 12e place, voire même un peu jouer la 6e place, il faut à un moment donné mettre un peu d'argent. Ok, soit. Les premiers profils, Silla a joué à Bruges, a joué à la Ligue des Champions, a tenu Mbappé dans un match, apparemment, j'ai pas vu le match, pourquoi pas. Mais ensuite, les profils suivants, on est toujours sur les mêmes profils de joueurs. C'est des joueurs qui ont fait une saison, une demi-saison. Je pense aux deux Bordelais, je pense à Emega. 9 buts, Emega au Sturm Graz en 33 matchs, c'est comme 9 buts en Ligue 2, ça fait 4 buts en Ligue 1. Enfin, on divise toujours par 2, ça c'est ma théorie à moi, mais c'est un peu light. Je veux dire, ce projet-là que Mac Keller nous a vendu, je dis pas qu'il ressemble au projet McCormack, c'est qu'on s'attendait, nous, à avoir des joueurs qui soient de niveau supérieur avec l'argent investi, et au final, on se rend compte que cette équipe, c'est totalement...
pour l'instant, au bout de 4 matchs, en tout
voilà.
Cas. Maxime, un peu le même regard, ou tu dis qu'il faut du temps, tu es patient
Je pense qu'il faut un peu de temps pour tirer à balles réelles. Je pense que les téléspectateurs qui nous regardent ce soir nous trouvent peut-être très sévères, peut-être trop sévères. Maintenant, lorsque tu perds Sanson, tu perds Bellegarde, tu perds Diallo, et encore je pense que j'en oublie, des joueurs qui t'ont quand même sorti d'une situation compliquée, Dimitri Hénard,
le marchand qui était titulaire aussi.
Voilà. Des joueurs d'expérience qui t'ont quand même sorti d'une situation extrêmement compliquée il y a ne serait-ce que quelques mois. Forcément, il ne fallait pas s'attendre à de la magie. Moi, si je dois faire un comparatif, j'ai le sentiment qu'on est en train de vivre ce qu'on a vécu à Bordeaux lorsque le club est passé, tiens, sous pavillon américain, avec une stratégie sportive peu lisible, si ce n'est de faire du trading. Et le foot, c'est pas que ça. Il faut des joueurs d'expérience, il faut jouer des joueurs de ballon. Et aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur la réelle volonté de mettre une identité dans ce club. Je ne parle pas d'une identité alsacienne, mais une identité de jeu.
Pour rester sur le mercato, le Racing, comme tu le disais, a perdu le meilleur joueur de chaque ligne. Djikou, Bellegarde, Diallo, ça paraît cohérent de dire ça. Il n'y a que 3 recrues, Anthony, qui sont titulaires, comme tu le disais tout à l'heure. Cette équipe, elle a joué le maintien jusqu'à la quasiment dernière journée l'an passé. Il n'y a pas de surprise, en fait.
Oui, et en fait, j'ai l'impression que cette équipe du Racing est plus faible que celle de la saison dernière, comme disait très justement Maxime. C'est qu'on a pris des jeunes joueurs, peut-être à potentiel. Nous, on ne les connaît pas, mais on n'a peut-être pas le talent des recruteurs du Racing pour le juger. Mais c'est surtout, en fait, les joueurs qu'on a pris ne jouent pas. Sow ne joue pas. Bakwa Emega ne joue pas. Ces joueurs ne jouent pas. S'ils étaient si forts que ça, ils seraient dans le 11 de départ. Là, on laisse 30
des bribes de match pour l'instant à la fin.
Ouais, pour faire. Jouer. Au final, on fait rentrer Senaya, Perrin est titulaire. Mm-hmm. Enfin, on fait jouer des joueurs qui sont pas forcément voués à jouer. Et les autres, on les met sur le banc. Donc c'était quoi? C'est juste pour les avoir et on a payé 30 millions pour pas que les autres l'aient. Enfin, on comprend pas, comme le disait Maxime, la stratégie de Boulenko, tout simplement.
C'est une vraie surprise, en fait. Enfin, on a l'impression qu'on découvre quelque chose. C'est peut-être nous qui l'avons mal interprété, mais on a l'impression, je ne dis pas de s'être fait avoir, Maxime, mais qu'on est très surpris d'avoir ce discours-là au bout de 4 journées. On ne pensait pas du tout faire une émission sur ce ton-là, en tout cas.
Le sentiment des supporters, il est celui-là. C'est d'être, je parlais de flou, mais là, c'est d'être floué, clairement. Parce que ce que nous avons vendu, tu l'as dit, c'est de passer un cap. Aujourd'hui, on est descendu de 2 étages. C'est ça qui interpelle.
Pas encore.
Pas en division, mais dans le jeu, c'est d'une pauvreté. On est peut-être même plus pauvre que le début de saison de l'an passé. C'est dire où on était quand même perdu dans le dur. Et là, en fait, on avait quand même un plan de jeu. On avait des certitudes par rapport à il y a 2 ans avec.
Il y avait au moins un système en place.
Il y avait un système en jeu. Mais là. En fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un entraîneur qui met un plan de jeu, une organisation avec des joueurs qui n'ont pas le profil pour jouer ce système-là. Et ces joueurs-là sont censés être... Ils sont sur le banc aujourd'hui, ils sont censés être sur le terrain. Moi, je reviens sur Deminguet, mais encore une fois, on a recruté 2 ailiers bordelais qui devaient tout casser, qui ont tout cassé la saison passée. C'est vrai qu'ils ont été très bons quand même avec Bordeaux. Mais s'ils étaient aussi bons que ça et en forme, pourquoi ils ne sont pas sur la pelouse? Moi, ça m'interpelle.
Allez, on va basculer dans la dernière partie de cette émission, mais vous avez commencé à l'aborder, s'interroger sur le projet, tout simplement. Quelle est l'identité, quel est le projet, tout simplement, de ce collectif, de ce Racing version Blumco. Il manque des cadres, déjà, autour de cette équipe. Une équipe, Anthony, c'est un équilibre, quand même, souvent. Moi, j'ai toujours en tête cette scène au match à Lille, où, pareil, le Racing avait été transparent, mais où Lienard s'était alpagué avec le jeune Nordil Kandil. À la fin du match, il manque qui joue ce rôle-là aujourd'hui. À tort ou à raison, pour Lienard sur le coup, mais qui est capable je dis pas d'empoigner son coéquipier, mais en tout cas de pousser une gueulante dans le vestiaire, sur le terrain.
Le club l'a vendu plutôt comme ça, en disant c'est Gamero, il a l'expérience, il a 4 Ligues Europa, il a joué en équipe de France, c'est plutôt lui le cadre. Le capitaine, c'est Mats Hels, qui parle un peu mieux français qu'au début, mais qui harangue souvent pour tout et n'importe quoi. Et il y a Gilbert qui, je pense, joue vraiment ce rôle-là. Mais effectivement, on a perdu Djikou qui avait le rôle de capitaine et le leadership.
Oui, le leader mental de l'équipe.
Et Lienard, qui faisait un peu comme nous ce soir, qui, au lieu d'avoir un discours édulcoré face aux caméras, disait « on est nul à chier, on joue comme des trompettes ». Voilà, donc on manque d'expérience dans cette équipe, tout simplement. C'est bien de prendre des jeunes à potentiel, mais effectivement, il faut les encadrer et... De passer un stade, moi je m'attendais à des joueurs profil. Alors je vais les citer comme ça, ça va peut-être pas plaire aux supporters strasbourgeois, mais je vais dire Cabella, Bourigeau, Benjamin André, des joueurs qui valent déjà 10-12 millions, mais qui les valent vraiment.
On
est sûr de ce qu'on achète.
Ouais, voilà. On risque de les vendre moins cher ou pas du tout, mais on sait ce qu'on a. On parlait de l'attente du public, Maxime, comment tu vois ça aussi, le public pourrait se retourner. On disait il y a eu quelques sifflets à la mi-temps de Toulouse, qui vraiment effectivement était une première mi-temps déjà pas terrible. Il y a eu un peu de circonspection dans les tribunes, chez les suiveurs du Racing. Tu sens que ce vent pourrait tourner.
On le voit sur les réseaux sociaux, mais alors après sur les réseaux sociaux ça part très vite. Sur les forums aussi, tu le disais, j'ai fait un petit tour sur YouTube ce matin. C'est pas. Encore une fois, on revient là-dessus sur le fait qu'on nous a vendu un projet avec des millions et des millions qui ont été mis sur la table. On sent clairement qu'il y a un énervement. un énervement sur le fait que la multipropriété, on nous l'a vendue comme... comme la solution inévitable au football d'aujourd'hui pour exister en Ligue 1. Moi, quand je vois le niveau de jeu, alors après, il faut se méfier des débuts de championnat, mais j'ai aperçu le match du Havre face à Lorient.
C'est cohérent.
C'est cohérent et c'est totalement autre chose que ce qu'on a aujourd'hui au Racing, avec une stratégie, avec des investisseurs français, alors un target de Made in France, mais c'est le cas, avec une logique, avec un Mathieu Bodmer qui connaît très bien le football et qui met en application ça depuis 3 ans au Havre. Et c'est cohérent et il y a un fond de jeu, voilà, il y a une identité sur le terrain, ce que l'on n'a pas du tout au Racing depuis le début de championnat.
Ça sera la tâche de Patrick Vieira, on a l'impression, Anthony, pardon, qu'il va falloir, en 30 secondes, c'est un challenge pour toi, qu'il est un peu perdu lui-même. Enfin, on n'est plus à l'époque où l'entraîneur choisissait ses joueurs, là, il va falloir qu'il se débrouille, entre guillemets, avec ce qu'il a.
Alors, je pense qu'il a quand même un petit peu choisi. En tout cas, il a validé les profils ou les joueurs, parce que normalement, la cellule de recrutement, le directeur sportif lui fait valider. Mais c'est surtout, tu as l'impression que lui-même, il est perdu. C'est-à-dire que même lui, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Donc, à partir de là où le cuisinier ne sait pas ce qu'il va cuisiner, c'est un peu compliqué de sortir un plat. Et c'est vraiment sa tâche à lui. On n'a jamais été aussi staffé. On n'a jamais eu tant d'argent. Et pourtant, on n'a jamais autant été aussi mauvais. On tient que les matchs par l'abnégation des joueurs comme Perrin, comme Gilbert, comme sur un malentendu, le poteau sortant. Mais on tient que des matchs comme ça. Donc c'est vraiment à lui de ressortir, de recentrer une équipe et peut-être prendre un joker déjà. On a le droit à un joker français en fin de contrat. Bah, faudrait peut-être regarder ce qu'il y a en français relayeur en fin de contrat.
Allez, le temps file vite, très vite. Vous le savez, dans Cop Racing, on ne parle pas que de football. Petit coup d'œil dans le rétroviseur de l'actu du sport alsacien de ce week-end, du basket, du tennis et du handball, notamment au menu.
La préparation estivale touche à sa fin pour la SIG et à l'approche de la reprise, les certitudes manquent à Strasbourg. Ce week-end, les hommes de Massimo Cancellieri ont terminé sur les rotules le tournoi de pré-saison en Allemagne. 2 défaites pour les Alsaciens, l'une face à l'ogre bavarois du Bayern 90-75, l'autre contre le Zitzberg 87-69. En cette rencontre amicale, le bilan strasbourgeois est tout de même positif avec 4 victoires et 3 défaites. La SIG débutera son championnat le dimanche 17 septembre prochain avec la réception de Nanterre. Si le tennis français est à la peine à New York, Pierre Hugerbert est lui en quart de finale de l'US Open, en double avec son compère Nicolas Mahut. En 8e de finale, les tricolores ont disposé de l'expérimenté duo Granollers-Zeballos en 3 manches, 7-6, 4-6, 6-4. Au prochain tour, le natif de Schiltigheim pourrait retrouver sur sa route un autre Alsacien, l'Aguenovien Albano Olivietti, associé à l'Américain Galloway. Il joue la nuit prochaine en 8e de finale. Handball, les filles du SAD toujours en quête d'une victoire en première division. Après le large et logique revers 34-41 subi à domicile face à Nantes la semaine dernière, les Alsaciennes promues cette année ont longtemps tenu la dragée haute aux Toulousaines, 12e du championnat la saison passée. Samedi, face à des concurrentes pour le maintien, les Strasbourgeois se sont finalement inclinés d'un but, 26-25. Prochaine journée ce week-end, les Pirates se déplaceront une nouvelle fois, cette fois-ci chez la Lanterne Rouge Besançon pour un bouillant derby de l'Est.
Alors pas toulousaine, hein, comme il était dit dans le sujet, toulonnaise, puisque c'est du côté de Toulon, les filles du SATH qu'on suivra évidemment également sur BFM Alsace. Il est déjà l'heure de se quitter, Anthony, rendez-vous, radio, très bientôt.
Mardi prochain, mardi 12, 21h, 22h, RBS 99.
La reprise, et 15 jours à quoi, de souffrance ou de patience, Maxime, avant le prochain match.
De bien, de bien, non mais vraiment de bien, parce que on va voir autre chose.
Pour travailler.
Et oui, exactement.
Impec. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau de Cop Racing ce soir. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Il y aura toujours des choses à dire sur le Racing. Super soirée à toutes.